Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour,
bonjour
à tous. Quand on fait de la radio, il y a une chose que l'on redoute et que l'on évite à tout prix. Cette chose, c'est ça.
Le silence que j'ai rompu.
Le silence. Bien sûr, il y en a de très beaux, des silences dans les interviews, silence de réflexion, silence d'émotion. Et en famille, silence gêné parfois quand les enfants demandent si le Père Noël existe. Mais au beau milieu d'une chronique, un journaliste qui s'arrête sans même finir sa
phrase.
L'auditeur, il s'agace. Tape sur son transistor, vérifie qu'il est bien branché. Le silence, c'est inquiétant. D'où l'expression réduire quelqu'un au silence, l'empêcher de parler et d'exprimer ses opinions. Exemple, en Iran, où pendant plusieurs jours, les autorités ont coupé les connexions Internet, façon d'isoler le peuple pour mater. Dans le silence, la révolte en cours. Révolte déclenchée par une hausse de 50% des prix des carburants, mais plus largement, c'est à la République islamique dans son entier que les manifestants souhaitaient dire leur opposition.
Et le sujet fait la une du monde.
Iran, le régime se maintient au prix d'un bain de sang. Bain de sang qu'on a découvert une fois qu'Internet a été rétabli dans une partie du pays. Une répression inédite par sa violence, au moins 150 morts. Selon un bilan provisoire d'Amnesty International et 4000 arrestations, peut-on lire sur Mediapart. Trois mots, nous sommes vivants. C'est le premier message que les Iraniens envoient habituellement à leurs proches après un tremblement de terre, note Jean-Pierre Perrin. Or ce « je suis vivant » est devenu le message de la plupart des internautes iraniens. À l'instant où ils ont retrouvé une connexion, des vidéos ont commencé à circuler. Et ce qu'elles montrent, c'est ce qui ressemble à un état de siège. Les gardiens de la révolution, l'armée du régime, qui ont pris le contrôle des carrefours des grandes villes. Elles montrent également ce que furent les derniers jours des snipers. Tirant sur les manifestants depuis les toits, les autorités ne font pas mystère de leur intention de châtier durement les contestataires. Des juges spéciaux vont venir renforcer ceux des tribunaux. Répression féroce en vue, les leaders de cette révolte populaire seront punis par pendaison.
Et il est d'autres silences inquiétants dans la presse de ce dimanche.
Le silence d'un homme qui vivait avec sa mère à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Histoire sidérante dans Paris-Normandie. 6 années que ses voisins ne le voyaient plus. Il pensait qu'il s'était installé ailleurs. Mais il n'avait pas l'air normal. Sa mère non plus d'ailleurs, plus toute sa tête, la vieille dame. Une femme dont le centre communal d'action sociale n'avait plus de nouvelles non plus depuis quelques temps. Maison fermée, volée, fermée. Vendredi, les sapeurs-pompiers sont allés voir. L'octogénaire était tombé au sol dans l'entrée. Et à l'étage, ils ont découvert le corps d'un homme momifié dans la baignoire. Le fameux voisin dont on pensait qu'il était parti vivre ailleurs depuis 6 ans. Sa mère conservait donc ainsi le corps de son fils dans sa salle de bain. Autre affaire à la une du journal du dimanche. Et là encore, des silences qui interrogent.
Chirurgien pédophile, révélation sur un scandale.
L'affaire Joël Le Squarneck, chirurgien suspecté d'avoir agressé au moins 250 jeunes patients. Et le scandale que révèle l'hebdomadaire tient au fait qu'il a profité du silence de certains de ses collègues et de ses proches. Des collègues et des proches qui savaient qu'il était pédophile. Ils étaient au courant de sa condamnation, c'était en 2015, condamnation pour visionnage d'images pédophiles, 4 mois de prison avec sursis, 90 euros d'amende, sans obligation de soins. Dans ses journaux intimes, on découvre qu'il aurait pu faire des victimes dans une 20aine d'hôpitaux, hôpitaux où certains avaient eu vent de ses penchants. Il écrit que sa femme savait qu'il était pédophile, sa sœur également, depuis l'année 1999, quand l'une de ses petites filles lui a confié que son oncle avait abusé d'elle. Aujourd'hui, elle s'en veut de ne pas avoir parlé. Erreur énorme, dit-elle. J'aurais dû porter plainte et je me sens coupable de toutes les victimes après 99. Comme pour se dédouaner, elle ajoute, à l'époque, la parole n'avait pas encore été libérée.
Sur les violences faites aux femmes, en revanche, la parole s'est bien libérée.
Et toute la presse revient ce matin sur les manifestations d'hier. Au moins 49 000 personnes à Paris, mais également plus de 2 000 à Strasbourg, comme le relève l'Alsace. Plus de 2 000 aussi à Lille, relève Nord-Éclair. Une déferlante violette, titre le courrier Picard, ce qui donne une marée violette dans l'Est éclair. Des rassemblements à l'avant-veille de la clôture du Grenelle, organisée sur le sujet. Demain, on attend des annonces du gouvernement, sachant que dans ces histoires, il y en a souvent auxquelles on ne fait pas assez attention. Féminicide, les enfants, victimes, oubliés, des témoignages poignants à lire ce dimanche dans Le Monde. En 2018, 82 enfants sont devenus orphelins à la suite d'un homicide conjugal. Près de 60 étaient présents lors du meurtre. La plupart ne sont pas suivis. On ne s'occupe pas de leur traumatisme. Il en est même auxquels on a conseillé de se taire. Dire que leur mère est morte dans un accident de voiture, par exemple. Enfin, c'est toujours dans Le Monde. Et c'est plus souriant. Les mots du peintre Pierre Soulages, qui aura 100 ans le mois prochain, il évoque justement sa mère et l'étonnement de celle-ci la première fois qu'elle a vu peindre uniquement à l'encre noire. Que dessines-tu ? Lui avait-elle dit. Et l'enfant de répondre, je dessine la neige. C'est silencieux, la neige. Espérons pour les enfants qu'il y en aura à Noël.
L'esprit de Noël dans la revue de presse de Frédéric Pommier. Merci Frédéric.